Un chasseur de mines belge est actuellement en route vers la Méditerranée.
Actuellement au large du Portugal, le Primula, c'est son nom, a quitté Zeebrugge jeudi pour participer à une mission de l'OTAN. À terme, il pourrait même être envoyé dans le détroit d'Ormuz en cas de cessez-le-feu durable.
Et c'est l'occasion, Paul, de se pencher avec vous sur l'état de la marine belge en pleine reconstruction, parce qu'en fait, aujourd'hui, la flotte est plus que vieillissante.
Et l'un des meilleurs exemples, c'est justement ce Primula. Sa mise en service remonte à 1991, soit un navire vieux de 35 ans. Il était encore déployé en mer Baltique il y a quelques semaines dans le cadre d'une autre mission de l'OTAN. Et il a été dérouté, rappelé en Belgique pour repartir en Méditerranée. Car en fait, la marine belge n'a plus que deux chasseurs de mines opérationnels à l'heure actuelle. Mais n'allez pas dire à la Défense que cela déforce le flanc nord de l'Alliance. La commandante Fanny Georges dirige le groupe d'action contre les mines navales.
Non, on n'a pas déforcé et ça se fait en concertation avec l'OTAN. Donc la Belgique ne déforce pas en se repositionnant pour l'instant en Méditerranée.
Et le Primula est loin d'être le seul navire vieillissant. C'est le cas d'une bonne partie de la flotte belge, comme les deux frégates Louise-Marie et Léopold Ier. Eux datent de la fin des années 80 des navires de guerre, qui ont d'ailleurs dû être rééquipés de matériel plus moderne, notamment pour la lutte contre les drones. Car évidemment, depuis les années 80, les menaces et les technologies ont fortement évolué.
Ces dernières années, la Défense a donc décidé de moderniser sa marine.
Avec l'achat de deux, voire trois frégates, de six chasseurs de mines, d'un patrouilleur. L'objectif est de remplacer les vieux bateaux et d'étendre la flotte actuelle pour passer de 5 navires opérationnels aujourd'hui à 13 à l'horizon 2033. L'amiral Tanguy Botman, le commandant de la marine belge, reconnaît d'ailleurs qu'une partie de la flotte belge est en bout de course.
La marine est en reconstruction, donc après 20 ans d'économie, la marine n'arrive vraiment plus à réaliser ses missions. Maintenant, on voit qu'on doit réaliser nous-mêmes notre propre sécurité, donc au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne. Donc il était important d'avoir de nouveau une marine efficace, crédible et résiliente. C'est surtout le poids du changement géopolitique qui nous fait devoir vraiment investir dans des nouvelles capacités.
Ces investissements représentent plusieurs milliards d'euros. Côté syndical, on nous dit qu'il était temps, mais qu'investir dans le matériel ne suffit pas, il faut aussi recruter. Et là se pose un autre problème, le manque de personnel. La Défense en est bien consciente.
Je recrute 1000 personnes, 1000 personnes qui pourraient venir travailler dans la marine. Des profils particuliers tels que techniciens, opérateurs, radaristes, conducteurs de drones, pilotes de drones comme on dit, mais aussi techniciens de drones, tout ce genre de profils différents.
Et cette reconstruction va donc prendre du temps, d'autant plus que des retards importants sont annoncés dans la livraison des nouvelles frégates.
Oui, parce que les navires commandés ne sont pas encore tous arrivés pour les nouvelles frégates. 7 ans de retard, et donc elles n'arriveront pas avant 2034, en cause un problème de conception. Et l'objectif de 2033 semble déjà compromis. En plus, on l'a dit, les deux frégates actuelles sont vieillissantes et pourraient ne plus être opérationnelles d'ici l'arrivée de leur remplaçante. La Belgique réinvestit donc dans sa marine, mais cela va prendre du temps. Alors que l'actualité récente nous a démontré que les tensions sont grandissantes aussi en mer, entre une possible intervention à Ormuz ou encore l'arraisonnement d'un pétrolier de la flotte fantôme russe en mars au large des côtes belges.
Merci à vous Paul Loncin. On poursuit avec Félicien Kabunga qui repose désormais pour l'éternité en Belgique.
Félicien Kabunga, considéré comme l'homme qui a financé le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, son corps a été inhumé ce matin dans un caveau familial à Waterloo. Rislaine Kunda, il aura échappé à un procès.
Oui, Félicien Kabunga est mort le 16 mai à l'âge de 93 ans alors qu'il était en détention dans la prison des grands criminels de guerre à La Haye, aux Pays-Bas. Pendant 26 ans, il a été l'un des fugitifs les plus recherchés au monde avant d'être arrêté en 2020 près de Paris. Trois ans plus tard, un procès s'ouvre au tribunal pénal international pour le Rwanda. Félicien Kabunga était accusé de génocide et de crimes contre l'humanité.
De quoi est-il soupçonné en fait ?
Eh bien, cet ancien homme d'affaires, l'un des plus fortunés du Rwanda dans les années 90, est suspecté d'avoir créé pendant le génocide un fonds destiné à soutenir les milices Hutus qui ont massacré entre 800 000 et 1 million de personnes en une centaine de jours à peine, d'avoir financé la radio-télévision libre des mille collines qu'on entend là, qui avec les mots et les chants pousser les Hutus nuit et jour à tuer les Tutsis à la machette. Félicien Kabunga a toujours plaidé non coupable. Finalement, les juges ont suspendu son procès, estimant qu'il était inapte à être jugé en raison de sa démence. Et au moment de son décès, il attendait d'être transféré vers un pays européen disposé à l'accueillir. La Belgique avait refusé de le recevoir.
Félicien Kabouak qui est mort sans condamnation judiciaire.
Oui, la justice ne pourra pas statuer sur sa responsabilité dans le génocide des Tutsis. Il n'y aura pas de jugement pour Bernard Minguin, avocat. Il défend depuis longtemps la communauté Tutsi. Cette absence de procès a de graves conséquences.
Au fond, le travail du droit, c'est de retisser un lien sur le rapport aux valeurs fondamentales du vivre ensemble. Eh bien, on laisse une béance. Et c'est ça l'enjeu de l'absence de procès. C'est justement le fait de maintenir ce doute qui rend possible la remontée en puissance de la haine.
Et donc l'absence d'un procès alimente ce doute?
Moi, j'en suis tout à fait convaincu.
Voilà, et la justice dispose quand même d'un dossier d'instruction bien fourni. Il y a les faits historiques, mais il reste encore des zones d'ombre, des secrets que Félicien Kabouga aurait pu révéler et qu'il aura remporté avec lui dans la tombe. Bernard Minguin en énumère.
Les circuits de financement pour les achats de machettes, les partenaires financiers qui ont permis de mener à bien ce projet, la recherche des complices, par hasard ou pas par hasard, on le retrouve en France. La façon avec laquelle le circuit familial a joué un rôle, la radio des Mille Collines, voilà. Qui l'a financé, cette radio, comment est-ce que ça s'est fait?
En France, une commune a refusé d'inhumer une autre figure du génocide, Rislaine.
Oui, l'an dernier, le maire d'Orléans a pris une mesure rarissime. Il a interdit l'inhumation de Proté Zigirani Razo, alias Monsieur Z, lui aussi considéré comme l'une des figures du génocide. Après un recours, le Conseil d'État en France a confirmé l'interdiction, estimant que les risques de troubles à l'ordre public justifiaient cette mesure. Bernard Minguin appelle à une réflexion collective.
Il faut que nous fassions une réflexion collective sur la façon avec laquelle on organise symboliquement le départ de la vie de ceux qui, à l'intérieur de la communauté humaine, ont à ce point porté atteinte aux équilibres fondateurs du vivre en commun. Il y a toujours des nostalgies qui viennent se recueillir sur cette tombe.
Voilà, et Félicien Kabouga a été inhumé en Belgique parce qu'il y avait de la famille. Les autorités de Waterloo n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview.
Rislaine Kunda. L'Ozempic, le Viagra ou encore le Botox, ces médicaments mondialement connus ont un point commun. Eh bien, ils sont tous fabriqués en Irlande.
Et c'était Westport, dans l'ouest du pays, qu'en 1977, le géant américain Allergan s'installe pour produire la célèbre toxine qui efface les rides.
Derrière ces airs de cartes postales, la ville côtière de Westport est ainsi devenue, Clémence, la capitale mondiale du Botox.
Dans cette ville de 7000 habitants, une personne sur cinq travaille pour l'usine de Botox. Le maire lui-même, Peter Flynn, s'y rendait tous les matins pendant 27 ans avant de se lancer en politique.
On a tous des amis, des proches qui y travaillent. L'entreprise s'étant installée au milieu des années 70, dans certains cas ce sont trois générations d'une même famille, les grands-parents, leurs enfants et aujourd'hui les petits-enfants.
Avec sa fiscalité ultra compétitive, l'Irlande a su attirer les poids lourds de la pharma, Pfizer, Johnson & Johnson et AbbVie qui a racheté Allergan à Westport en 2020 et qui carbure à plein régime la plus grosse usine de production de toxines botuliques au monde avec près de 4,5 milliards d'euros de ventes chaque année. Une aubaine économique pour toute la région, se réjouit le maire.
Avant, le comté de Mayo était assez lugubre. En semaine, Westport, c'était quasiment mort, avec très peu de tourisme. L'usine a vraiment changé la donne. Tout à coup, un employeur s'installe avec 150 salariés et aujourd'hui, ce sont 1400 salariés, sans compter près de 800 emplois indirects. Et chaque goutte de Botox dans le monde est produite à Westport, ce qui est assez incroyable.
Alors, on imagine bien, Clémence, qu'à Westport, la production, elle est strictement encadrée. Mais ailleurs, c'est pas toujours le cas, le contraste est frappant.
Et oui, sur les réseaux sociaux, les offres d'injections se multiplient et parfois proposées par des personnes non qualifiées. Et ainsi, beaucoup commencent le Botox tôt. C'est le cas de Rochelle, 26 ans, qui a commencé les injections à 22 ans à peine.
Je me fais injecter au niveau du front. J'en ai fait aussi autour des yeux et au-dessus de la bouche pour relever ma lèvre. Tout le monde autour de moi le faisait. On voit des pubs partout sur Instagram et des influenceurs sont payés pour en parler. C'est complètement normalisé aujourd'hui.
À la tête d'une clinique esthétique à Dublin, Dr. Katrina Kieran voit d'ailleurs de plus en plus de mineurs avoir recours à des injections. Et pour cause, contrairement au Royaume-Uni, en Irlande, aucune loi ne les interdit chez les moins de 18 ans.
Quand j'avais 16 ans, on se faisait percer les oreilles. Aujourd'hui, à cet âge-là, les jeunes vont plutôt se faire injecter entre copines.
Et en ligne, donc, les bonnes affaires défilent et séduisent. Mais quand le prix paraît trop beau pour être vrai, c'est qu'il est. Katrina Kieran a récemment dû intervenir en urgence sur une patiente de 15 ans pour éviter une occlusion de sa lèvre quand le sang ne circule plus.
Elle avait payé 60 euros pour une injection des lèvres. Rien que pour moi, acheter les produits que j'utilise, ça coûte bien plus de 60 euros. Et malgré tout, le personnel qui a injecté cette jeune fille a fait un bénéfice. Alors imaginez la qualité du produit utilisé au départ. J'ai réussi à en dissoudre une partie, mais j'ai finalement dû ouvrir l'arrière de sa lèvre pour tout retirer. Aujourd'hui, sa lèvre est déformée et c'est irréversible.
Jugée alarmante par les professionnels de santé qui appellent à légiférer sans attendre, les députés travaillistes veulent imposer par exemple l'affichage obligatoire d'une licence et prévoir des sanctions claires en cas de mise en danger des patients.
Clémence Pénard, vous êtes notre correspondante en Irlande.